VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En RDC, visite éclair du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon aujourd'hui dans un camp déplacé de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. En provenance de Goma, chef-lieu de la province, après Bujumbura au Burundi voisin, Ban Ki-moon a passé plusieurs heures au camp de Mungote à Kichanga, localité de 80 000 habitants à environ 80 km au nord-est de Goma. Le gouvernement de la RDC menace de fermer plusieurs camps au Nord Kivu. Une décision qualifiée de punition collective à l'encontre des déplacés par l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon OCHA, c'est la découverte d'une arme dans une hutte du camp de déplacés de Mokoto dans la province qui a motivé la décision des autorités congolaises. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a d'ailleurs démantelé le camp en question. Au Burundi voisin, le Sénared, principale plateforme d'opposition intérieure et en exil, accuse le gouvernement burundais de fausse ouverture parce que le président Pierre Nkurunziza se dit prêt à dialoguer uniquement avec les opposants qui ne se sont pas engagés dans des actes de déstabilisation. Il dit au secrétaire général de l'ONU qu'il accepte le dialogue inclusif et tout de suite après, il veut choisir ses interlocuteurs en accusant certains de perturber la sécurité, a déclaré Léonard Nyangoma, président du Sénared, joint au téléphone aujourd'hui par l'AFP. Rappelons que lors de sa visite à Bujumbura, le numéro 1 de l'ONU, Ban Ki-moon, a obtenu l'engagement du président Nkurunziza d'ouvrir un dialogue avec son opposition, des promesses acquises après des consultations ce mardi avec le chef de l'État burundais. Messieurs Ban et Nkurunziza ont d'ailleurs confirmé cet engagement lors d'une conférence de presse conjointe avant le départ du numéro 1 de l'ONU pour Goma en RDC, deuxième étape de la tournée africaine de Ban Ki-moon. Les grandes lignes de la visite de deux jours de Ban Ki-moon au Burundi avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Ban Ki-moon, après avoir rencontré lundi soir des dirigeants de quatre formations politiques les plus représentatives, dont Agathon Rwasa, Charles Nditije, Léonce Ngendakumana et Pascal Nyabenda, s'est entretenu avec le numéro 1 burundais ce mardi matin. Des questions de l'heure ont été abordées, tel le dialogue inclusif sans faux-fuyant avec les responsables des partis politiques qui sont aujourd'hui en exil. En outre, Ban Ki-moon a indiqué qu'au moins 2000 prisonniers politiques vont être libérés et que d'autres gestes de ce genre seront pris demain pour montrer la bonne foi du gouvernement. Pierre Nkurunziza, quant à lui, s'est félicité de la collaboration avec les Nations Unies, où les militaires et policiers burundais collaborent étroitement avec les Nations Unies en Somalie, en République centrafricaine et dans d'autres pays. Pour le président burundais, cette collaboration sans faille va continuer pour les biens de Burundais et des Nations Unies. Des preuves ont été données à Ban Ki-moon qui montrent que le Rwanda entraîne des réfugiés burundais sur le territoire rwandais, selon toujours le président burundais. Mais pour Ban Ki-moon, il faudra toute la détermination collective de tous les Burundais et de leurs partenaires régionaux et internationaux pour remettre le Burundi sur la voie de la paix, du développement et de la réconciliation. Pour Ban Ki-moon, il n'y a pas de temps à perdre. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
À noter que les violences ont continué au Burundi pendant la visite du secrétaire général de l'ONU. Une dizaine de grenades ont explosé dans la nuit de lundi à mardi et ce matin à Bujumbura, faisant une dizaine de blessés, selon la police. Au Tchad, la marche pacifique de l'opposition démocratique n'a pas eu lieu ce matin à N'Djamena, faute d'autorisation de la part du gouvernement. Des précisions avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
L'espace Fest Africa, qui constitue le point de départ de cette marche pacifique, a été pris d'assaut très tôt le matin par le service de sécurité. Une trentaine de véhicules bourrés des éléments de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que des chiens anti-émeutes, attendaient de pied ferme les manifestants. Regroupés devant le domicile du chef de file de l'opposition, brandissant les pancartes où on peut lire « Non à l'injustice, non à la répression de la jeunesse tchadienne, non à un cinquième mandat pour débit, non aux violations des droits humains », les militants de ces partis politiques de l'opposition attendait le mot d'ordre de leur leader pour croiser le fer avec les agents de sécurité. Salih Kebzabo, chef de file de l'opposition, sort de la maison et lance cet appel aux militants.
Nous sommes devant un dilemme qui est grave parce que la marche est interdite et on le sait depuis hier. On ne peut donc pas se regrouper à Fest Africa pour démarrer notre marche.
Cette marche avortée risque d'entamer la crédibilité du chef de file de l'opposition car beaucoup de ses compagnons de lutte se disent déçus parce que Salih Kebzabo a fléchi face à cette menace de peur que sa candidature ne soit invalidée à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. André Kodumadjingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Élections au Niger, le gouvernement nigérien rejette les assertions de l'opposition qui dénonce des fraudes électorales de la part du parti au pouvoir et refuse de reconnaître les résultats des présidentielles annoncés depuis la veille par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le ministre de l'Intérieur, Assoumi Massaoudou, a déclaré à l'AFP que les élections avaient été conformes aux standards internationaux. Cela fait longtemps qu'ils disent qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats, ce n'est pas une surprise, a précisé M. Massaoudou, faisant référence au leader de l'opposition. Il a conclu en disant « Si nous perdons, nous partirons sans problème, si nous gagnons, nous restons ». Fin de citation. Côté opposition nigérienne, on assure avoir la preuve des fraudes électorales perpétrées par le parti au pouvoir. En témoigne la déclaration d'Amadou Boubacar Cissé, porte-parole de la coalition des partis d'opposition, la COPA, aujourd'hui pour dénoncer les activités du gouvernement en ce sens. Un extrait de ses propos recueilli par notre envoyé spécial à Niamey, Nicolas Pino.
Depuis le 22 février, alors que les opérations dépouillement ne sont même pas terminées dans de nombreuses localités, la CENI diffuse des résultats pour le moins fantaisistes. Les résultats sont en désaccord total avec les données réelles récoltées par les représentants des partis membres de la COPA 2016. À Zinder et dans bien d'autres régions, les résultats proviennent de milliers de bureaux de vote fictifs. Dans nombre de zones où le PNDS a été largement battu, la CENI présente des résultats surprenants qui nous montrent clairement que le président Issoufou Mahamadou persiste dans son illusion de coup chaos qu'il veut imposer par une trituration irresponsable des résultats du vote sanction des populations nigériennes. En fait, les représentants du PNDS à la CENI disposent déjà de la totalité des résultats fabriqués sur toute l'étendue du territoire qu'ils font valider et publier par la CENI, qui agit ainsi par une grave complicité. En tout état de cause, les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien. Nous confronterons en temps opportun nos données et celles dont ils disposent.
Amadou Boubacar Cissé, porte-parole de la coalition des partis d'opposition, la COPA, au Niger, a noté que l'Union africaine, qui avait déployé 40 observateurs sur le terrain, a globalement approuvé l'organisation des élections, tout en critiquant des retards et l'absence fréquente d'affichage des listes et des membres des bureaux de vote.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique maintenant. En Syrie, le gouvernement du président Bachar Assad a donné son accord au projet américano-russe de cesser le feu dans le conflit syrien qui doit entrer en vigueur le week-end prochain. Le point avec Idriss Fall.
Le gouvernement syrien a accepté la proposition de John Kerry et Sergei Lavrov. Le haut comité des négociations qui rassemble des groupes de l'opposition a déjà donné son feu vert hier en restant sceptique sur la bonne foi du régime syrien. Après un entretien hier avec Barack Obama, le président russe Vladimir Poutine avait assuré qu'il ferait tout pour que son allié syrien respecte cet accord. La trêve doit débuter samedi à 0h locale. Elle exclut le groupe État islamique et le Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, qui contrôle des pans entiers de la Syrie. C'est surtout le Front al-Nosra, allié à certains groupes rebelles, qui sera un obstacle majeur. Cet accord intervient au moment où l'armée syrienne, appuyée par les bombardements russes, a repris beaucoup de terrain aux rebelles dans la province d'Alep. D'ailleurs, le président Bachar al-Assad a annoncé la tenue des législatives pour le 13 avril dans tout le pays. Le Parlement actuel a été élu en 2012 pour 4 ans.
Et pour terminer l'actualité ici aux États-Unis, le président américain Barack Obama a présenté aujourd'hui un plan pour fermer la prison de Guantanamo, jugeant que cette dernière était néfaste à la sécurité nationale des États-Unis et était contraire aux valeurs de l'Amérique. Il reste à ce jour 91 détenus dans la prison, 35 d'entre eux pourraient être transférés dans des pays tiers dans les mois à venir. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Hey, hey.